présenté par Christelle Le Polotec
et préparé par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Kirschenbaum est un des derniers artistes dont la carrière se sera confondue avec la fatalité du juif et obligatoirement mêlée aux pires horreurs de l'histoire. Le résultat aura été la dispersion ou la destruction de toute une partie de son œuvre. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Nathan Diamant pour le livre que vous avez consacré à votre oncle, le peintre Kirschenbaum, dont parlait à l'instant le texte de Jean Cassou. Ce livre qui vient de paraître chez Somogy Éditions d'Art avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Alors cet ouvrage est à la fois un livre d'art avec de nombreuses reproductions des œuvres de ce peintre né en Pologne en 1900 et mort en 1954 à Paris, formé à l'école du Bauhaus en Allemagne dans les années 20 et représentant de l'école de Paris dans les années 30. Ce livre est aussi pour vous, Nathan Diamant, l'accomplissement d'un travail de recherche autour d'un héritage familial, puisque Kirschenbaum était le frère de votre mère. Tous deux ont survécu à la Shoah, alors que le reste de leur famille restait en Pologne, a péri pendant la guerre. Dans l'introduction de ce livre, vous racontez notamment que les seules traces de cette famille disparue étaient les portraits qu'en avait peint votre oncle. Alors avant de parler de son œuvre, j'aimerais tout d'abord que vous nous disiez quel rôle il a joué dans votre enfance, Nathan Diamant.
Kirschenbaum était le frère de ma grand-mère.
De votre grand-mère.
De ma grand-mère. D'accord. Donc c'est mon grand-oncle.
Parfait.
Donc l'oncle de ma mère. Je l'ai rencontré en 1946, après la fin de la guerre. Nous habitions la Belgique. Nous étions trois frères et mes parents. Nous avons tous survécu la Shoah, nous avons été sauvés par des familles non-juives et on s'est retrouvés comme par miracle après la guerre. La famille de ma mère, qui était de Stachow en Pologne et qui est la famille de ce grand-oncle, a elle été envoyée dans les camps de concentration et en définitive presque tous ceux de Stachow ont disparu pendant la guerre. Donc après la guerre, Kirschenbaum était désespéré. Et il est arrivé chez ma mère, ayant appris donc que sa femme avait été prise dans les camps et n'était pas rentrée d'Auschwitz, et ayant appris que toute sa collection de tableaux avait été brûlée à Paris, près de 600 tableaux, ce que je ne savais pas à l'époque. Donc.
Vous étiez tout enfant.
Moi, j'étais tout enfant, mais j'ai gardé le souvenir, puisqu'il a vécu dans notre chambre, dans notre chambre d'enfant à l'époque, et que chez nous, dans l'appartement, nous étions entourés des peintures de cet oncle. Il s'est avéré plus tard, que j'ai découvert ça récemment, qu'il était venu chez nous aussi en 1935. Et c'est probablement pour ça qu'on a encore des peintures qui datent d'avant-guerre.
D'accord.
Parce qu'il est très rare de trouver actuellement des tableaux d'avant-guerre. Et donc je l'ai rencontré à ce moment-là. Et j'ai gardé un souvenir assez extraordinaire de cette personne que j'ai vu une fois ou quelques temps. Et puis après, nous sommes partis pour Israël. Donc en 1949, nous sommes partis en Israël. Et en 1954, on a appris qu'il était décédé d'un cancer. En définitive, c'était ça dont je me souvenais. Et suite à son décès, il y a eu une exposition de peinture à Paris, à la Galerie Veil, que Alix de Rothschild avait organisé. Alix de Rothschild, après la guerre, elle a sauvé, elle a participé au sauvetage moral surtout, de nombreuses personnes. Et entre autres, Kirschenbaum, je crois qu'il a survécu grâce à elle,
oui.
Certainement moralement. Et il s'est avéré aussi que plus tard, donc, il a carrément vécu chez lui. J'ai rencontré le baron David de Rothschild qui m'en a parlé et qui se souvient très bien de lui, et qui me disait, donc, il m'a raconté entre autres qu'il avait un accent assez fort, donc des choses dont moi je ne me souvenais pas, et qu'il avait donné des cours de peinture à Alix de Rothschild à l'époque. Effectivement, dans ce livre, on retrouve un des tableaux qui est signé par Alix de Rothschild, qu'on a retrouvé dans des archives. Nous sommes en Israël, et il y a cette exposition.
C'était en quelle année ça?
C'est en 61, je crois qu'il y a eu cette exposition. Ma tante, donc la sœur de ma mère, qui habitait à l'époque, donc pendant la guerre en Israël, est venue juste après la guerre nous voir en Belgique, puisque nous étions la seule famille qui est restée. Nous sommes venus en Israël, elle a quitté pour Paris, et elle était très très proche de cet oncle. Et c'est au fond grâce à ça qu'une grande partie des archives, j'ai retrouvé chez elle lorsqu'elle est décédée. C'est-à-dire il y a une dizaine d'années, donc ma mère et ma tante sont décédées, et nous avons récupéré donc ces tableaux d'enfance et les archives. Et suite à la récupération de ces archives, je me suis dit qu'un jour il faudrait que je reprenne et que je refasse des recherches sur Kirchenbaum.
C'est-à-dire que pendant toutes ces années, finalement, vous avez vécu avec cette œuvre au sein de la famille, mais sans réellement chercher à en faire quoi que ce soit. Et c'est seulement il y a 10 ans que vous avez vraiment êtes penché sur cet aspect-là.
Oui, ce qu'il faut se dire, c'est que disons toute notre génération et celle de nos parents, on ne parlait pas de la Shoah. Mmh. On a tous passé la Shoah, mais on parlait très peu de la Shoah. Il y a maintenant, actuellement, je m'occupe à Yad Vashem d'une commission des justes, et on retrouve ça. Donc, maintenant, on parle. Avant, on ne parlait pas. Et nous avons autour de nous toute cette famille que nous n'avons jamais connue. Et on n'a jamais posé des questions, qui est qui dans ça. Mais nous savions que c'était la famille. Et donc, lorsque on a retrouvé ces archives et j'ai commencé à lire, je me suis dit, un jour, j'arrêterai de travailler et je m'occuperai de ça. Et c'est effectivement ce que j'ai fait il y a une dizaine d'années.
Vous nous disiez qu'une grande partie des œuvres de Kirchenbaum, 600 œuvres a priori, ont été détruites et par les nazis. Beaucoup de collections ont été pillées et dispersées pendant la guerre. Comment vous avez fait, Nathan Diamant, pour retrouver les œuvres de votre oncle, les œuvres qui sont réunies dans cette monographie ?
Bon, d'abord, j'ai appris que ces œuvres avaient été pillées. J'avais lu dans un journal un article, il y a Art and Loss, c'est une société qui s'occupe de recherche d'œuvres qui ont été spoliées. Et ils étaient en Angleterre, mm-hmm. J'ai été les voir en Angleterre. Et là, ils m'ont dit qu'il y avait effectivement donc, ces 600 tableaux qui avaient disparu. Ils m'ont conseillé d'aller au ministère des Affaires étrangères à Paris pour essayer d'obtenir des renseignements supplémentaires. Et là, j'ai téléphoné au ministère à Paris, je suis rentré en Israël et ils m'ont visé qu'ils avaient plusieurs dossiers sur Kirchenbaum. Et là, je suis rentré, j'ai été les voir et ils m'ont donné tous ces dossiers. C'est là que vraiment j'ai appris qu'il y avait 600 tableaux qui étaient dans son studio. Il y a une description très, très, très générale de ces tableaux et il raconte donc que les Allemands ont pillé le studio et que tout a été brûlé.
Alors, avant d'arriver ce studio à Montparnasse, est-ce qu'on peut revenir tout d'abord à l'enfance, enfin aux origines? En fait, Kirchenbaum est né en 1900 dans un shtetl de Pologne, et c'est un environnement qui sera présent tout au long de son œuvre.
Exactement. Donc, le livre est divisé en trois parties d'ailleurs. Il y a une partie qui correspond à mes recherches, de quelle façon nous avons réussi à retrouver certaines œuvres. La seconde partie est le côté purement artistique et la valeur artistique de ce peintre. Et la troisième partie, c'est un article que Kirchenbaum a écrit qu'on a réussi à retrouver. Donc, on a retrouvé dans la presse en Israël, parce que, bon, je vais vous en parler plus tard, j'ai fait des études d'art à Jérusalem, et là, entre autres, j'ai découvert dans la bibliothèque que ces articles avaient été traduits dans la presse israélienne, le journal Davar des années 50. Et là, il raconte toute sa vie, à partir de sa naissance mm-hmm. jusqu'à l'âge de 20 ans. Et l'influence du cheder, l'influence des différentes... de la vie du shtetl et de tout ce qui a à voir avec ça. Et on retrouve ça dans sa peinture, c'est-à-dire il y a des périodes où il y en a moins, et puis ça revient. Donc après la guerre, et c'est pour ça que dans certains journaux, on l'appelait l'imagier du peuple juif, parce qu'il a gardé le souvenir de cette génération, et il l'a reproduite, et c'est ce qu'on retrouve, je crois, très bien dans ce livre.
Mais c'est ça ce qui est étonnant quand on lit justement cette autobiographie, d'une certaine manière, qu'il y a dans la troisième partie du livre. Il se présente comme un enfant qui est beaucoup plus porté à la rêverie qu'à l'étude. Comment il va accomplir son destin d'artiste alors qu'il vient d'une famille qui est très religieuse, qui est très traditionnelle, qui...
Bon, mais il raconte ça donc dans cette partie du livre ou de ce qu'il a écrit, c'est que tout le monde dans sa famille était contre le fait qu'il soit peintre, parce qu'il avait probablement des dons de peintre d'un âge très très jeune, et il a eu des discussions et il a quitté la maison plusieurs fois. À l'époque, donc, il est passé à la Chomer HaTzahir, donc c'était vraiment, et pour ses parents, c'était une révolution énorme. Il y a eu et il est né, donc, sa mère avait plus de 50 ans à l'époque.
Ah oui.
Ce qui fait qu'il était considéré un peu comme un miracle. Et ses parents étaient furieux parce qu'au lieu d'apprendre le Talmud, la Gemara, et d'être comme son père, vraiment porté vers la religion, il était porté vers l'art. Et c'est uniquement vers l'âge de 20 ans que ses parents ont accepté le fait qu'il veut devenir peintre. Et lorsqu'il est à l'âge de 20 ans et qu'il essaie de suivre des cours d'art, étant donné que dans ce village on apprenait dans le cheder et on n'avait pas de baccalauréat, donc il n'arrive pas à être accepté en Pologne.
D'accord.
Et à ce moment-là, il quitte et il arrive en Allemagne. Et c'est là qu'il est accepté au Bauhaus et qu'il étudiera chez Klee et Kandinsky. Donc une époque qui est très importante dans l'expressionnisme allemand. Et à un certain moment, on lui propose d'être professeur. Je crois que c'est Kandinsky qui lui propose d'être professeur au Bauhaus. Et Gropius, qui était directeur du Bauhaus, dit non, nous allons vers l'architecture beaucoup plus que vers la peinture et le figuratif. À ce moment-là, il quitte, donc il termine ses études au Bauhaus et passe à Berlin où il a une période tout à fait différente, dont je vous parlerai un peu plus tard.
Mais on peut l'évoquer dès maintenant. C'est vrai qu'on se demande, vous avez fait des recherches là-dessus, comment on passe du Shtetl à l'école du Bauhaus à Weimar, et puis surtout ensuite à Berlin. Je crois que c'est en 1924. Berlin est à l'époque vraiment la capitale culturelle de la République de Weimar. C'est un environnement complètement différent de ce qu'il a connu jusqu'à maintenant. Comment il s'adapte à cette nouvelle vie et quelle influence ça a sur son art ?
D'abord, je crois le fait qu'il se marie en Allemagne et qu'il a une personne avec lui qui l'aide et qui le soutient dans son œuvre à cette époque est très important. Ce qui s'est passé en définitive, mes recherches ont été surtout en Israël et en France. Mm-hmm. Et très peu en Allemagne, parce que d'abord je ne parle pas l'allemand, mais toute cette période allemande, j'ai découvert très tard qu'en définitive, peut-être encore tout existait en Allemagne. C'est-à-dire que ce qui a disparu tout à fait en France, peut-être existe, et ça c'est la suite de mon projet.
D'accord.
Ce que j'ai réussi à trouver donc, dans mes recherches, c'est d'abord, peut-être deux mots, comment est-ce que j'ai effectué ces recherches ? C'est-à-dire, j'ai arrêté de travailler, donc j'ai prévenu, j'étais dans une entreprise, dans un groupe financier important, et j'ai annoncé que je quittais. Alors on m'a demandé, vous voulez quelque chose ? J'ai dit non, je quitte parce que j'ai des activités que je veux faire. Et à ce moment-là, donc, j'ai rencontré plusieurs spécialistes de l'art. Il y avait Yona Fischer qui était conservateur principal du musée d'Israël, et encore plusieurs personnes, ils m'ont dit, c'est un peintre important, ça vaut la peine de faire des recherches. Parce qu'avant, j'étais assez subjectif.
Bien sûr.
Et puis j'ai rencontré la professeure Maeslich, qui est spécialiste de Chagall, qui elle m'a dit aussi, il faut essayer de voir ce qu'on peut faire pour ce peintre. Et quand j'ai quitté, cette professeure Maeslich m'a dit, je te prends maintenant... à l'université, et pendant 2 ans, j'ai fait des études d'art à Jérusalem, et là, j'ai commencé à retrouver des choses. Et entre autres, donc, j'ai fait plusieurs découvertes qui sont intéressantes peut-être à mentionner. Donc, la première, c'était, donc, suite à ce livre aussi, qu'il y avait plus de 30 tableaux au musée d'Israël. Mm-hmm. Et là, c'est Alix de Rothschild qui les avait légués, donc après cette exposition probablement. Je savais qu'il y avait des tableaux qui avaient été faits chez Rothschild, qui avaient été commandés probablement par Rothschild, qui devaient se trouver à Paris. J'avais contacté le baron Guy de Rothschild, qui, et son fils m'avait répondu, David de Rothschild, qu'il ne sait pas où ils étaient, mais peut-être à la fondation Picpus à Paris. Alors je suis venu avec ma femme, et on a fait un pèlerinage dans les caves de cette fondation, et on n'a rien trouvé du tout. Et en rentrant en Israël, j'ai recommencé à lire les archives. Et à ce moment-là, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose au musée de Tel Aviv. J'ai téléphoné à Tel Aviv, ils m'ont dit oui, effectivement, ce que vous avez cherché à Paris, se trouve à Tel Aviv.
C'était à Tel Aviv, d'accord.
Et donc, il y a eu plusieurs cas pareils. Il y en a encore eu deux assez intéressants ou passionnants. C'est un à la bibliothèque Kandinsky, où suite aux relations que j'ai développées là-bas, les gens qui m'ont beaucoup aidé, mais il y avait M. Schulman, il y avait encore Christine Sorin, on a découvert 100 photos d'un photographe appelé Marc Vaux, deux tableaux de Kirchenbaum. Une grande partie, je ne connaissais pas, donc, mais d'après-guerre.
D'accord.
Et puis récemment, il y a peut-être un an ou à peu près un an, il y a un de mes amis en Israël qui s'occupe de spoliation, qui me téléphone, il me dit « Viens me voir, j'ai quelque chose d'intéressant à te présenter ». Et j'arrive chez lui et me montre 60 caricatures de Kirchenbaum qui ont été faites en Allemagne. Donc j'arrive maintenant à l'Allemagne. Et il s'avère qu'il avait été un des grands caricaturistes des années 30. Comme Grosse.
Dans les journaux, en fait.
Dans les journaux. Mais disons, Grosse est connue, tandis que Kirchenbaum... Moi, je ne savais même pas qu'il était caricaturiste, donc au début. Et indépendamment de ça, on a retrouvé en Hollande aussi des tableaux des années 1925, entre autres celle qui est sur la couverture ici, qui sont de l'époque d'Allemagne.
D'accord.
Ce qui fait que je sais qu'en Allemagne, il y a des choses intéressantes à retrouver. Et ça, c'est pour le futur. Donc,
ça vous permet quand même d'avoir une vision assez large de son œuvre, parce que ce qui est frappant aussi quand on lit le livre, c'est de voir à quel point son style va évoluer. On a évoqué donc la période Bauhaus, il y a Berlin. Quand Hitler va arriver au pouvoir en 1933, Kirchenbaum est contraint de quitter le pays. Il va trouver refuge à Paris, et plus précisément donc dans le quartier de Montparnasse. Où vont se réunir les artistes issus de la diaspora qui vont donner l'école de Paris. Il y a la guerre, ses œuvres d'après-guerre vont ensuite être aussi radicalement différentes. Quel est, à votre avis, le fil conducteur dans son œuvre ?
Je crois que ce qui s'est passé, c'est-à-dire, de nouveau, Alix de Rothschild l'a aidé à quitter la France pour une certaine période.
Après la guerre,
mm-hmm. en 1947. Et il part au Brésil.
Juste préciser qu'il a été interné dans des camps en France pendant la guerre.
Pendant la guerre, il a été interné dans des camps, entre autres à Bellac, dans le Limousin, et encore dans un autre camp. Je ne sais pas, je n'ai pas les détails. Ce que je sais, c'est qu'il a été bon ami de Félix Nussbaum. Mm-hmm. Et qu'il a essayé, donc lorsqu'il est venu chez nous en Belgique, de retrouver des traces. Et là, il y a une lettre qui est dans le livre, dans laquelle on lui annonce que Félix Nussbaum a été dénoncé et déporté. Donc, ils étaient probablement dans la même région à l'époque. Mais je n'ai pas des détails.
Donc, lui va survivre. Par contre, son épouse est déportée, c'est bien ça. Et puis, la quasi-totalité de sa famille qui est restée en Pologne...
Ils sont tous décédés. C'est la différence entre Nussbaum et Kirchenbaum. C'est Nussbaum a disparu et son œuvre est restée. Kirchenbaum est resté et son œuvre a disparu. C'est assez... qu'est-ce qui est mieux ? Les deux sont terribles, en définitive.
Qu'est-ce qui, parmi toutes ces périodes donc, qu'on évoquait, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans son œuvre ? Qu'est-ce qui vous a le plus captivé ?
Moi, ce qui me frappe, c'est d'abord, bon, il reste très juif dans une grande partie de son œuvre. C'est-à-dire, on retrouve toujours ce côté, il revient aux sources. Même dans la peinture au Brésil, on retrouve les sources.
Oui, vous évoquez donc ces voyages... permis par Alix de Rothschild. Il est parti donc au Brésil en
1948-1949. Il est au Brésil, ouais. Et quand il revient, donc c'est écrit dans cette histoire, dans ce livre, il essaye de vendre des tableaux et entre autres, il réussit à vendre des tableaux à la Collection nationale française. Mm-hmm. Et parmi ces tableaux, il y a aussi des tableaux. Donc, il vend deux fois, une fois en 1945, juste après la guerre. Désespéré, il leur demande de les aider. Et il vend des tableaux du Brésil aussi. Et même dans ces tableaux-là, indirectement, on retrouve un peu le Stettel d'une façon, donc, lorsqu'on analyse les peintures. Donc ça c'est resté chez lui. Mais il évolue avec la peinture en Europe. C'est-à-dire, si au début, c'est lorsqu'il est en Allemagne, c'est le... Il est basé sur, comment dire, plutôt sur l'expressionnisme. Oui. Après, il passe vers l'impressionnisme. Quand il arrive en France, donc il reste expressionniste, mais il est très influencé. Donc, Rouault et son ami, on retrouve des peintures. Du cirque.
Mm-hmm. Donc
des choses qui correspondent à la France. Il est peut-être influencé par Chagall, par Soutine, par des peintres de cette époque. Et après, donc, il passe à la fin de sa vie. Il est carrément... Il a une peinture qui est abstraite, mm-hmm. tout à fait abstraite, et qui correspond à l'évolution de la peinture. C'est-à-dire que c'est un peintre qui a évolué, qui n'est pas uniquement juif, mais qui est resté juif. Et c'est ce que moi j'ai essayé de faire, donc de restituer au patrimoine juif Kirschenbaum, mais aussi de restituer au patrimoine français Kirschenbaum. Je crois que c'est important, et les archives donc de Kirschenbaum vont être données à l'IMEC, où sont les archives des artistes
contemporains
français, oui.
Est-ce que vous voudriez bien nous décrire, Nathan Diamant, une des peintures qui vous plaît particulièrement?
Écoutez, je vais juste parler peut-être d'une série de peintures.
Oui, si vous voulez bien, pour nous donner un peu une idée.
Dans lesquelles on retrouve le Messie. Mm-hmm. Et au fond, le Messie est un symbole de l'espoir. Alors, on retrouve chez Kirschenbaum, d'un côté, il y a Job, qui est le désespoir complet. Et de l'autre côté, il y a le Messie. Et c'est assez extraordinaire. Il y a Ansor qui, par exemple, lui, l'amène. C'est Jésus qui rentre à Bruxelles. Et chez Kirschenbaum, c'est le Messie qui arrive à Stachow. Mm-hmm. Et ça correspond, c'est la même période. Et ce sont tout de même... C'est différent, mais ça se rapproche. Et là, on retrouve souvent, donc, en 1942, il y a, lorsque c'est l'époque la pire chez Kirschenbaum, on retrouve des peintures du Messie et de Kirschenbaum qui est, comme de nombreux peintres, il est dans un coin, on retrouve...
Donc, oui, avec son chevalier, pinceau, donc, on le reconnaît.
Donc, et c'est, moi, je crois que cette série de peintures sur le Messie... est importante vis-à-vis de moi-même. Par contre, je ne sais pas si c'est la meilleure période. Nous ne connaissons presque pas la période en France, puisque tout a été brûlé.
Oui.
Et nous connaissons la période en Allemagne, qui est formidable, qui est magnifique.
Et celle de l'après-guerre, on voit que des thèmes religieux reviennent très fortement, et aussi les scènes du Stettel sont présentes.
Exactement. Et on retrouve aussi des scènes avec Jésus, mm-hmm. qui correspond un peu à ce que Chagall fait. On retrouve donc la douleur du peuple juif, la douleur du monde. Donc ça se répète un peu chez ces peintres qui ont tous eu la même éducation. Enfin, ils sont nés dans des petits villages en Russie ou en Pologne, et puis ils ont évolué chacun de leur façon.
Je vous remercie beaucoup d'être venu, Nathan Diamant. Je rappelle que le livre Kirschenbaum, 1900-1954, La génération perdue, vient de paraître chez Somogy Éditions d'Art avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. On peut noter qu'il y a également actuellement une exposition, c'est ça ?
Est-ce que je peux juste deux mots pour les expositions ?
Oui, bien sûr, je vous sais le moment.
Il y a une exposition actuellement à Ein Harod. Cette exposition, elle passe à Tel Aviv en mai à la Maison de la Diaspora. Mm-hmm. Il est probablement prévu une exposition au Musée du Montparnasse à Paris au début de l'année prochaine. Ça sera 60 ans depuis le décès de Kirschenbaum. Cette exposition au Musée du Montparnasse sera en coopération avec la bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou. Et ça sera Marc Vaux, le photographe et les peintures de Kirschenbaum.
D'accord.
C'est ce qui est prévu. Donc, indépendamment de ça, il y a un livre qui est en train de sortir sur les peintres juifs qui ont échappé d'Allemagne, qui sont arrivés en France pendant les années 30. Mm-hmm. Il y a un grand article sur Kirschenbaum. Et le 20 juin, donc, ça sera présenté au mémorial de la Shoah. Et je reviendrai donc à Paris pour vous voir.
Parfait. Mais nous vous tiendrons au courant de toute cette actualité sur le site. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web, donc radio-rcj.info ou mémoire-vive au pluriel.net.